Les grandes gueules.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Bienvenue dans les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium, votre rendez-vous spécial jeu de rôle qui peut vous emmener dans des nouvelles aventures et vous faire découvrir de nouveaux mondes. J'espère que vous avez apprécié la dernière partie que vous avez pu entendre, celle qui était consacrée à Tales from the Loop, un jeu de chez Free Alligan. On va, enfin qui était de chez Free Alligan à l'origine et qui a été traduit en français par Arcane Asylum. Alors vous l'entendez certainement, ma voix est un petit peu étouffée, je suis tout seul dans le studio, mais comme le préconisent plein de gens maintenant, le retour du masque est obligatoire, donc je vais faire attention, déjà moi tout seul, et puis vous aussi chez vous. Voilà. Donc on va se retrouver très certainement tout à l'heure dans un nouvel univers, puisque les voix ce soir vont jouer à Alien. Alors, ceux qui ne connaissent pas Alien, déjà, qu'est-ce que vous avez fait des dernières années? Puisque ce monstre mythique du cinéma, oui, je parle bien du Alien qui a été... Que dire si vous ne connaissez pas Alien, à part déjà installez-vous devant votre télé une fois que l'émission Les Voix du Cinéma sera finie, et puis faites-vous tous les films et vous pourrez découvrir les aventures de Ripley, une jeune femme qui va survivre aux assauts d'une créature, une machine à tuer quasi parfaite. Voilà, c'est un univers qui est assez fabuleux, qui a été détaillé sur 4 films principaux. Il y a des films qui sont des préquels avec Prometheus, avec Covenant. Et puis, c'est un univers qui a été énormément décliné, que ce soit en bande dessinée, en film, en crossover, puisqu'on a du Alien contre Predator. Il y a un très 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 bon jeu qui s'appelle Alien Isolation, dans lequel vous fuyez un alien. C'est un univers qui a énormément marché. Et puis un jour, en fait, il y a cet éditeur, Frieliga, cet éditeur suédois, si je ne me trompe pas, qui s'est dit, tiens, et si on faisait un jeu Alien ? Alors comment ça peut se passer ? Parce que le concept d'Alien, c'est quand même des gens qui fuient et qui tentent de survivre à une créature qui semble indestructible. Elle est extrêmement agile, extrêmement rapide. Son sang est fait d'un acide qui ronge tout. Elle résiste aux balles principalement. Et puis elle est capable de vous s'arracher la tête, comme ça, sans vraiment faire d'efforts. Elle résiste au froid, elle résiste à la chaleur. C'est une créature assez démoniaque, issue de l'esprit de l'artiste suisse H.R. Giger. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir son œuvre, c'est assez fabuleux. Et cette créature a tout de suite suscité énormément de fantasmes, que ce soit par ses interprétations, par tout ce qu'on peut imaginer et écrire sur l'interprétation qu'on peut avoir des films. Une femme seule qui survit dans un vaisseau spatial avec une créature dont le crâne est tellement allongé qu'on pourrait imaginer un phallus. Et bien, écoutez, moi je vous laisse imaginer, je vois pas quoi faire de plus. Mais bon, Alien, une créature devenue culte en quelques années et une saga de films qui a dépassé toutes les attentes de ses réalisateurs. Je pense qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'Alien irait aussi loin. Et puis un jeu de rôle. Ce jeu de rôle, c'est celui auquel les joueurs vont jouer tout à l'heure. Les voix vont pouvoir découvrir en fait cet univers où on va pouvoir jouer des personnages avec des références au film Alien, notamment à la très célèbre Wayland Yutani, qui est une entreprise, un grand consortium qui a des intérêts un petit peu où elle le souhaite, mais également des synthétiques, des créatures qui sont des espèces d'androïdes qui ne permettent pas de distinguer s'ils sont des humains ou simplement des créatures, jusqu'à ce qu'on les fasse saigner avec cette espèce de liquide blanc qui remplace leur fluide interne. Et puis effectivement, les fameux Marines iconiques qu'on a pu découvrir dans Aliens 2, des Marines qui, aussi surarmés qu'ils le peuvent, ne sont que du menu fretin face aux fabuleuses aliens du titre. Voilà pour l'univers d'Alien. Donc du coup, on va jouer des gens qui sont dans un vaisseau. Mais comment on joue ça ? Eh bien, Alien, c'est un jeu à secret. C'est-à-dire qu'on va chacun avoir un objectif personnel qu'on ne va pas dévoiler aux autres. Et le but est, à la fin du scénario, d'avoir réussi à accomplir ses objectifs. Ça guide beaucoup le joueur dans sa façon de présenter et de vivre son personnage. Ça oriente sa façon de faire. On peut jouer une énorme brutasse et avoir pour besoin de préserver ses camarades du groupe. Au contraire, de se débrouiller pour ramener un échantillon d'un alien, quitte à y laisser la peau de ses camarades. Et comment ça fonctionne, ce jeu ? Eh bien, c'est assez simple, puisque le système de jeu est le même, à peu près, que celui de Tales from the Loop. On a un binôme caractéristique compétence. On jette un certain nombre de dés, et si vous faites un 6 sur votre jet de dés, vous avez réussi votre jet. Certains jets sont des jets un peu plus difficiles, pour lesquels il faudra plus de 6. Parfois, sur un jet, vous allez faire plus de succès que nécessaire, ça vous permet de générer des effets bonus. Alors vous allez me dire, oui, mais Seb, est-ce que c'est vraiment utile de nous refaire jouer à un jeu qui a le même système de règles qu'un jeu précédent ? Eh bien, ça, je répondrai oui, puisque ce système de jeu est suffisamment flexible pour s'adapter à plein de jeux si l'on en modifie quelques éléments. Déjà, le fait que ce soit un jeu avec des secrets, qui va énormément mettre de tension au sein de la narration, mais également grâce à un petit système assez simple qui s'appelle les points de stress. Les points de stress, ce sont des points, des dés, d'une couleur différente que vous allez pouvoir accumuler en fonction de situations stressantes. Voir un cadavre, subir une détonation de coup de feu. Eh bien, ça va représenter dans votre pool de dés cette capacité que vous avez à vous adapter à une situation difficile. Cette montée d'adrénaline qui fait que vous allez être capable de vous surpasser. Parce que oui, plus vous allez avoir de dés de stress dans vos mains, plus vous allez avoir de chances de réussir vos jets. Mais la contrepartie, c'est que si jamais vous faites une seule face, une face représentée par un facehugger, créature iconique de l'univers d'Alien, eh bien vous paniquez. Peu importe le nombre de dés de réussite que vous allez avoir eu, une seule face négative sur votre dé de stress fait que vous allez pouvoir partir en vrille. Et ces parties en vrille, ça peut être simplement de je me mets à tirer dans tous les sens, ou je me mets à courir à contresens, ou je vais faire un câlin à la créature en face qui, de toute façon, va décréter qu'elle me mangerait. Vous voyez ? Un système de jeu simple, une toute petite variation, et on a un nouveau système de jeu qui fonctionne de manière très efficace. Bon, alors, c'est pas la seule modification hein, que le système de jeu présente, mais c'est le cœur, on va dire, de ce système-là. Quoi dire de plus, si ce n'est que c'est un jeu qui est visiblement excellent. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite pause musicale pendant que nous installons le monde et chauffons le scénarium, ou l'inverse. Je vous invite à une légère pause musicale. Et pour rester dans l'ambiance, j'ai choisi une chanson qui parle de l'espace, tant qu'à faire, avec David Bowie, avec A Space Oddity. On se retrouve dans quelques instants.
Radio G, 101.5 FM.
Ground control to Major Tom. Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition. And may God's love be with you. To know whose shirt you wear.
fabuleux morceau de David Bowie, Space Oddity, sur le 101.5 de Radio G. Écoutons à présent les voix qui vont partir dans l'espace. Enfin, si tout se passe bien, et je pense que tout se passera mal, c'est un petit spoiler, hein, ne croyez pas que tout va bien se passer. Et vous, ce soir, vous allez peut-être entendre crier Cyril, Thierry, Jonathan ou Alice, qui seront les voix incarnées dans cette partie d'Alien. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste après. Donc, vous êtes un équipage qui vogue dans l'espace sur un petit vaisseau qui s'appelle l'Ouroboros. Vous êtes un vaisseau indépendant, mais qui fait beaucoup de missions pour la Welland Yutani. Donc il y a l'équipage, et puis il y a certains personnels qui sont soit des personnels qui sont emmenés parce que ça fait partie de ce que demande la Welland, soit les personnages d'équipage de base. Ok ?
Bien.
Je vous laisse vous présenter aux autres personnages. Vous connaissez déjà. Le vaisseau s'appelle l'Ouroboros. Je ne sais pas si je l'ai dit. Nous avons le capitaine. Nous avons un agent de la Welland Yutani. Nous avons un médecin autour de la table et un technicien. Qui veut commencer ? Allez, le capitaine d'abord.
Capitaine.
Je suis le capitaine Hans Kaiser et c'est mon vaisseau. Mon équipage a l'habitude, enfin, j'aime que mon équipage obéisse à mes ordres au moment où je les donne, et je travaille pour la Welland en tant que sous-traitant depuis des années.
Ok. Est-ce qu'on laisserait l'agent de la Welland nous parler ?
Écoutez, je suis Ridley Burke, agent de la compagnie. Je suis Ridley Burke, agent de la compagnie. Je suis là dans l'objectif, nous transportons des cargaisons de la compagnie. Je suis là dans l'idée de vérifier que tout se passe bien et que les cargaisons arrivent à bon port. La mission soit menée à effet.
Un petit tour du côté du technicien maintenant.
Alors moi c'est la chance, je suis là depuis longtemps, je crois que je fais pratiquement partie de ce vaisseau. Et très clairement j'aimerais rappeler au capitaine que si je n'étais pas là, ce vaisseau serait en plusieurs morceaux. Ce serait d'ailleurs gentil de me donner des outils pour tout réparer. Et à part ça, j'aimerais aussi demander à être augmenté un de ces quatre quand même. Pardon, je parlais à l'agent de la compagnie.
Et puis nous avons, pour compléter cette équipe, un médecin.
Oui, bonjour. Docteur Rivers, bon, Sally, hein, pour faire plus simple. Le capitaine m'a proposé de rejoindre cette équipe pour garder l'équipage en un seul morceau, puisque chacun sa spécialité. C'est pas une mince affaire, il y en a toujours qui se blessent, mais enfin, heureusement que je suis là.
Ok. Et du coup, l'Ouroboros vogue à travers les différents cadrans de l'espace. Et la mission qui vous a été confiée est de réapprovisionner une base de recherche sur une toute petite exoplanète. Il y a un générateur d'atmosphère au Welland Yutani sur place, qui n'est pas un générateur de très grosse puissance, mais ça permet de pouvoir se passer de combinaisons de survie en extérieur. Vous savez que c'est une planète qui a une faible gravité. Elle doit être 10 à 15% moindre que sur la Terre. Et vous savez que c'est une petite base qui a à peu près, une dizaine de personnes sur place qui sont là pour faire de la recherche. Parmi les personnes que vous avez dans le vaisseau, il y a des membres, des personnes qui vont servir de relève à cette équipe de recherche, et vous les réapprovisionnez en matériel et en nourriture. Donc vous faites le trajet une fois par mois à peu près, et puis vous repartez, vous faites réapprovisionnement, vous faites le trajet. C'est des trajets courts, ça permet d'arrondir les fins de mois de manière assez, assez régulière.
D'accord, donc on est à grosso modo une semaine de l'endroit où on récupère le matos, c'est ça ?
C'est ça, à peu près.
Ok.
Et puis le voyage se déroule sans vraiment d'accroc. Comment vous fonctionnez un petit peu
avec les autres passagers, avec, avec le voyage. Comment ça se déroule le quotidien dans le vaisseau ?
Bah, ils ont leur coin, nous le nôtre. Je les considère un peu comme de la marchandise, donc il faut pas qu'ils fassent chier, quoi.
Ok. Le pilote, tu lui laisses plus de latitude ou
Oui, enfin, je suis directif, mais tant que chacun fait son job, je suis pas du genre à repasser derrière pour vérifier. Enfin, tant que ça marche, quoi.
Ok. Le trajet se déroule plutôt bien, plutôt calmement. Et puis, le pilote t'appelle, appelle le capitaine.
Donc, je me rends au poste de pilotage.
Ouais, on risque d'avoir un petit souci. Là, il y a eu une espèce de champ d'astéroïdes que j'avais pas anticipé. Va falloir qu'on passe à travers. Ça risque de secouer un peu.
Et zut, encore des réparations.
Ouais, je sais, mais j'ai fait au mieux. Hein. Pourtant, la trajectoire, le calcul était bon, mais...
Ce serait gentil d'éviter d'arracher l'antenne de communication cette fois. J'aimerais bien la garder, je n'en ai plus de rechange.
Je vais faire au mieux.
Ce serait bien.
Ok. C'est bon, capitaine, pour vous ?
Ouais. Tâchez de faire au mieux, je vais prévenir les clients.
Ouais, je vais faire au mieux, hein, capitaine. Ouais. Sans qu'il il est pas serein quand même. Je vais pas forcément te faire de jet là-dessus, hein, mais tu sens que ouais, ça le stresse quand même pas mal. Et effectivement, je te laisse faire ton annonce. Non, tu.
Ah, je me déplace carrément.
Ok. Tu préviens les gens de rester maintenus, comment de.
Bah alors après je est-ce qu'on a une zone qui est un peu plus sécurisée que les autres
L'habitacle principal en fait. En fait il y a le poste de pilotage qui est vraiment à l'avant. Il y a une zone au centre. Il y a des comment dire. C'est structuré de façon à ce que les choses qui sont vitales soient vraiment le cœur du vaisseau. Mmh. Donc cette zone là qui fait un petit peu office de salle de discussion, c'est vraiment la zone principale.
D'accord.
C'est là où on boit des coups. Quoi.
Je leur dis qu'on va, on va sans doute subir des impacts, donc il faut qu'ils évitent de se balader, déjà qu'ils sortent pas de la pièce, qu'ils restent assis. Ils peuvent garder leur ceinture, c'est pas plus mal.
Et effectivement, la zone de turbulence arrive. Bon, vous savez que vous êtes vraiment pas loin de la planète, donc c'est un petit incident sur le parcours, mais c'est pas énorme. Et effectivement, ça commence à secouer pas mal. Bon, les gens sont plutôt sereins parce qu'ils ont été prévenus, et puis c'est pas quelque chose de rare. Et puis vous avez un choc un petit peu plus violent. Et puis vous avez les lumières qui commencent à changer, qui passent de vert classique à un peu rouge, avec des alarmes qui commencent à tourner dans tous les sens.
Oh, la belle rouge.
Ah, youpi. Bon, bah, ça secoue encore beaucoup, hein ?
Ça secoue encore beaucoup. Et vous avez des bruits qui sont pas des bruits sympas, en fait.
Oui, je vois l'idée. J'ai les outils à ma disposition, un ordinateur déjà pour faire un diagnostic ?
Oui.
Bon, ben, je fais un diagnostic pour savoir quel morceau on a perdu.
Ok.
Alors, ouais, la chance, c'est un vrai problème ou pas ?
Je vais vous dire dans un instant.
Vous êtes équipé d'une version de maman qui est assez basique. Ce vaisseau n'est pas suffisamment grand. Alors je réexplique ce que c'est maman, parce que les auditeurs ne savent pas forcément. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas habitués à Alien. Maman, c'est un système de gestion autonome de vaisseau qui est capable de faire des diagnostics, d'interagir avec les passagers, avec l'équipage, et de répondre à des questions comme s'il faisait OK Google. Quoi.
Bonjour maman.
Bonjour.
Fais-moi une liste de dégâts, s'il te plaît.
Nous avons une avarie sur le moteur principal.
Oui, d'accord.
Nous avons plusieurs impacts sur la coque, mais qui ne sont pas vitaux.
Quel est notre niveau de pressurisation ?
Stable.
Très bien. Moteur principal en fonction ?
Moteur principal en fonction. Baisse de puissance de 70%.
Très bien.
Recommandation, atterrissage d'urgence.
Mon capitaine ?
Kara ?
Je pense que si vous voulez pas qu'on se transforme en une belle et jolie boule de feu, il serait urgent d'atterrir très vite. Si cela ne vous dérange pas.
Pilote, vous avez entendu ? Obéissez.
Oui.
Schnell !
Je fais au mieux, capitaine. On est pas loin de la zone d'atterrissage, mais je pense pas qu'on va pouvoir l'atteindre. Je fais un atterrissage d'urgence en rase campagne, mais en... sur le sol.
Faites au mieux. Okay. Vous avez intérêt à réussir.
Ok. Tu sens qu'il est, ouais, il est motivé, il est... il va faire tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Jonathan, tu peux tenter de faire des réparations d'urgence depuis l'intérieur.
D'accord, bah je vais enlever mon harnais, je vais essayer en survivant de faire ces réparations. En effet, je vais prendre ma belle clé à molette et je fonce en courant.
Ok.
Vite.
Tout le monde peut prendre un point de stress, hein, parce que ça reste une situation un peu vitale. Donc le point de stress, vous pouvez le noter sur votre feuille. Et puis quand vous ferez vos jets, vous rajoutez un des jaunes sur vos jets.
Alors du coup, ça va être un jet de quoi ? Comtech, c'est ça ?
Oui, Comtech.
Un instant. Non mais c'est bon, en fait, j'ai pile le compte. Je sens... C'est là que vous voyez l'échec critique dès le départ sur le moteur du vaisseau, c'est ça ?
Boum !
Oh zut. On est mort. Ah non, c'est bon.
Non, t'as fait 2-6, t'arrives à stabiliser... 3-6.
3-6. Ouais, 3-6. C'est-à-dire que je me fais des bleus partout, mais je m'en sors nickel.
C'est ça. Même pas forcément de bleu, hein. C'est vraiment...
Non, mais ça me fait un prétexte pour aller voir la jolie médecin qui vient d'arriver sur le vaisseau.
T'arrives à stabiliser différentes avaries. Tu redonnes un boost de puissance au moteur sans trop de problèmes. Et vous commencez à sortir de la zone vraiment de turbulence. L'atterrissage risque d'être chaud. C'est ce que dit quand même le pilote. Il a l'air d'avoir repris un petit peu d'adhérence, on va dire, dans l'espace. Je vois comment vous le dire, mais de contrôle du vaisseau. Et il commence à rentrer dans la pseudo-atmosphère de l'exoplanète. Et ça commence à chauffer un petit peu. Ça commence à monter.
Maman, active les senseurs et donne-moi un rapport sur l'environnement de la planète.
Senseur activé. Planète JL493.1. Planète de destination. Environnement froid. Zone peu habitée.
Froid comment ?
Température moins 25 au sol.
C'est la Bretagne.
Non, il pleut pas.
C'est une planète que vous connaissez, hein, c'est la planète de destination. Vous avez les équipements nécessaires en fait pour pouvoir.
En fait, si je comprends bien, on atterrit mais pas au bon endroit, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
Est-ce que au sein de, enfin, dans la soute par exemple, on a un buggy ou un Hummer ?
Oui.
Bah, déjà, on va essayer d'atterrir.
Vous avez un véhicule de transport léger. Mmh. C'est un véhicule en fait à grosses roues, enfin un véhicule tout terrain. Donc il y a une partie zone de transport. Mmh. Vous pouvez mettre une dizaine de personnes. Et puis c'est un véhicule sur lequel vous pouvez attacher une espèce de remorque sur laquelle vous sanglez du matériel.
D'accord, genre de rover.
C'est ça.
Un Mako.
Ouais. Voilà. Et vous commencez à descendre, ça secoue de plus en plus. Vous sentez la chaleur qui commence à monter petit à petit. C'est une phase d'atterrissage normale. Et puis vous voyez le pilote qui fait « Eh merde !» Je me dirais autre chose peut-être.
Bon, on se rajoute beaucoup de points de stress avec parce qu'un pilote qui dit « Eh merde !» en plein atterrissage, c'est pas bon.
Ah bah, c'est pas que vous avez même pas besoin de vous rajouter un point de stress en fait. Vous avez un choc assez violent sur le sol en fait. Vous savez pas ce que c'est.
Okay.
Le vaisseau commence à partir en vrille.
Oh.
Il y a des alarmes qui repartent dans tous les sens. Et puis vous avez un grand choc. Vous perdez tous connaissance.
Boum.
Ça dure un certain temps.
Ce sera au médecin d'avoir un peu de boulot après.
Et vous vous réveillez. Vous êtes tous isolés les uns des autres. Visiblement, le vaisseau a été éparpillé un peu partout. Au moment où vous regardez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il y a un espèce de long sillon creusé par le vaisseau.
Oh.
Qui l'a détaché en morceaux disparates.
Est-ce qu'on est encore abrité par un vaisseau encore étanche, ou est-ce que tout est ouvert aux quatre vents et on gèle?
Tout est ouvert aux quatre vents et vous avez très froid.
D'accord.
Ben moi, je vais essayer de trouver une combine à proximité, quelque chose pour m'abriter.
Ok. Ouais. Il y a toujours des morceaux en fait qui peuvent vous abriter. Il n'y a pas vraiment de vent. C'est juste une température assez froide et sèche, ce qui fait que ça vous saisit pas tout de suite. C'est pas.
Ouais, mais moins 25 quand même.
J'essaie quand de même. Repérer le module du vaisseau, enfin, vu qu'il est en petits morceaux.
Oui.
Où il y avait les scaphandres.
Moi, j'ai déjà appelé tout le monde aussi. C'est.
Oui, on a un comlink avec nous.
Et tout le monde, est-ce que vous êtes là?
Vous êtes tous des comlinks, oui.
Écoutez, oui.
Est-ce que vous allez bien?
Burke, ici Burke. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde est vivant?
Moi, ça va, capitaine?
J'ai fait bien. Enfin, vous avez fait mon vaisseau.
Vous en parlez pas, je vous rappelle que c'est moi qui vais devoir recoller les morceaux.
On va trouver un moyen.
Sally?
Oui.
Sally, vous êtes là, vous allez bien?
Oui, ça va.
On va avoir besoin de vous.
Et vous, quand même, vous allez comment?
Déprimé.
Et froid.
Et
le responsable de marchandises est là.
C'est le capitaine, non?
Ah, c'est toi qui a frété en fait les différentes marchandises.
Merde.
Thierry.
Faut que je retrouve la marchandise.
Alors, juste une chose en premier, je vais aller dans la salle, il doit y avoir un sas pas loin, et je vais retirer des combinaisons qui vont nous servir pour nous réchauffer.
Alors, c'est ce que vous voulez faire aussi, Cyril. Vous repérez à peu près la zone dans laquelle étaient les combinaisons. Donc, il y avait plusieurs zones, en fait. Il y avait vraiment dans la zone centrale, où il y avait quelques combinaisons. Et puis, vous avez une zone sur la zone de marchandises, où vous avez des combinaisons, parce que vous changez régulièrement celles qui sont sur la base scientifique, pour éviter qu'il y ait trop de saleté. Donc vous avez ces deux zones là, vous êtes approximativement proche de ces deux zones là. Jonathan est plus proche de la zone cargaison que de la zone centrale.
D'accord.
Vous avez été éjecté sur 100-200 mètres hein, tous en fait à peu près. D'accord. C'est pas oui, énorme.
On s'entend vraiment que par les comlinks là.
Ouais.
D'accord.
Est-ce que maman est liée au vaisseau ou est-ce que on y a toujours accès?
Tu peux toujours avoir accès à maman depuis les comlinks, mais elle fait partie intégrante du vaisseau. Donc si ces données sont complètement détruites, t'auras plus accès à maman.
D'accord. Donc maman, est-ce que tu peux me donner la localisation de enfin, notre position sur la planète et la distance qui nous sépare de notre objectif.
T'as un blanc.
Maman ?
Position calculée. 1 km, objectif nord-est.
Oh bah ça va, et le pilote il a quand même géré.
Attends, ça ressemble à quoi l'environnement autour de nous, parce qu'on n'a pas demandé.
Blanc.
C'est très désertique, c'est pas blanc,
genre,
c'est... Non, il n'y a pas beaucoup de collines ou de. Il y a de la roche. Il y a des zones de roche avec des fois des gros morceaux de roche beaucoup plus gros que les véhicules. Mais il n'y a pas de. C'est pas. C'est plutôt plat, en fait. Vous avez beaucoup de glace au sol, mais pas de neige, c'est pas blanc, froid comme on pourrait s'y attendre. C'est plutôt marron, rouge.
D'accord.
Vous réussissez à retrouver des combinaisons. Vous faites vite fait un contrôle en vous relevant. Vous avez plus d'hématomes que de choses il n'y a pas de, visiblement pas de casse sur les personnes qui ont répondu. Il y a deux autres personnes qui ont répondu en même temps que vous.
Mm-hmm. D'accord. Et du coup, tu peux faire un diagnostic, je pense.
Oui, les personnes qui ont répondu en même temps que nous ont été éjectées à la même distance que nous.
Donc à peu près, ouais.
On peut communiquer avec elles, mais on ne les voit pas. Pour savoir comment elles vont déjà, je les cherche. Je continue de leur parler. Et l'idée, c'est de savoir si les personnes sont blessées, si elles sont en train de perdre connaissance. Voilà, que j'en sache un peu plus et oui, diagnostiquer.
Tu sais que tu peux éventuellement demander à maman de faire un statut des. Parce que votre Comlink, il y a une espèce de détection de. C'est un peu une montre connectée qui va détecter votre rythme cardiaque. Ça va pas aller beaucoup plus loin. Mais tu pourrais éventuellement faire une demande à maman pour avoir un diagnostic des personnes, des membres d'équipage qui peuvent répondre.
Je savais pas que maman savait faire ça.
Maman, elle sait faire ça.
C'est tout faire.
Maman sait faire des bons. Non.
Il y a plus de cafetière.
Maman, il me faudra un diagnostic sur deux membres d'équipage qui ne se sont pas encore identifiés, dont je ne connais pas encore l'état physiologique.
Sur nombre d'équipage, 12, 6 manquants. Possible diagnostic décès.
Il n'y a plus aucun signe vitaux ?
Signe vitaux, nul.
Ils ont peut-être juste viré leur montre.
Ouais. Nous on entend.
Ouais, vous avez le retour. Donc, Jonathan Cyril, vous avez réussi à récupérer des combinaisons. Est-ce que vous communiquez aux autres ?
Du coup, moi, j'ai essayé de trouver, parce que si j'ai compris, moi, je suis séparé dans un autre morceau. J'ai essayé de voir si j'ai des copains, des survivants autour de moi. Mm-hmm. Si j'en retrouve, j'ai une combinaison. Et l'objectif, déjà, ça va être de faire les quelques centaines de mètres nécessaires pour retrouver le morceau principal de la passerelle, où se trouve le capitaine.
Ok.
Moi, c'est mon idée aussi, c'est d'essayer de chercher du monde autour de moi. Au passage, je dis, maman, état de la marchandise actuelle.
Stock éparpillé. Contrôle visuel à effectuer. Impossible pour moi.
Très bien, on va essayer de trouver ça. Déjà, je cherche du monde autour de moi.
Ok.
Et je vais avoir aussi une question pour maman.
Oui.
Le niveau d'autonomie des combinaisons, parce que certes, on n'est pas très loin de la base, et la base, avec son bouclier, nous permettra d'affronter les éléments, mais pour l'instant, on n'a que les combinaisons pour...
Alors c'est pas
comme
forcément.
Carapace.
Là c'est dans le jeu maman c'est à la fois le MJ et le personnage. Là ça va plus être le MJ. Les combinaisons vous savez qu'elles ont une autonomie. Elles sont capables de vous maintenir au chaud pendant à peu près 24 heures.
D'accord.
Donc c'est pas il y a pas d'autonomie mais c'est qu'elles vont faire une déperdition de chaleur naturelle au fur et à mesure.
Et t'as dit qu'on avait combien de combis en tout ? Une pour chaque...
Vous en aviez un petit peu plus puisque vous aviez les vôtres d'usage et puis celles qui étaient dans le transporteur. Vous deviez en avoir une vingtaine au total.
D'accord.
Oui, donc largement de quoi s'équiper, quoi.
Oui. Okay. Il y en a... vous faites le contrôle, il y en a qui sont déchirés, il y en a qui ont été un petit peu abîmés lors de l'impact, mais il n'y a rien de...
Rien d'irréparable.
Rien d'irréparable et suffisamment aussi pour utiliser tout le monde. Enfin, pour que tout le monde puisse les utiliser.
D'accord. Donc on n'aura pas de problème de...
Oui. A priori.
Oui. Je vais partir avec la chance chercher des survivants parce que les clients.
Ok.
Bon, déjà, si on a des blessés aussi.
Ok. Pour l'instant, les blessés. Enfin, trouver des personnes, c'est pas évident. Hein. Mmh. C'est vraiment une zone de crash. Donc, vraiment le sillon avec un gros morceau planté dedans. Des caisses, des morceaux de ferraille éparpillés un peu partout. Il y a des choses qui sont assez lointaines. Vous n'êtes pas trop sûr que ça vaille vraiment le coup d'aller aussi loin, vérifier si quelqu'un a survécu.
Ça me déprime de voir ce vaisseau dans cet état.
Tu n'es pas sûr de pouvoir le réparer. Hein.
Là, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de scotch.
Comme un doute.
C'est ça, du duct tape.
Il y a quelqu'un qui a cassé la vis qui tient tout.
Et vous commencez à fouiller un petit peu parmi les décombres. Il y a quelques endroits où il y a des pièces qui sont en train de brûler. du frottement qui a dû créer des micros incendies qui, malgré l'atmosphère assez froide, ont l'air de fonctionner. Ça fait des beaux feux de camp, des bombes à zéro. Et puis, vous distinguez effectivement au loin, comme c'est assez plat, des petites lumières qui sont visiblement des lumières de positionnement.
Peut-être la base.
Ouais, ça peut être la piste d'atterrissage, vu qu'ils nous attendent. Ok. De toute façon, tant qu'on n'a pas retrouvé ni... Enfin, là, il faut d'abord qu'on rassemble ce qu'on peut avant de partir. Donc,
voilà. Il faut des combinaisons pour tous ceux qui sont...
Ça, on a trouvé.
Ils sont vivants. Oui, non, mais il faut qu'on se retrouve, quoi. En fait, il faut qu'on se donne un point pour se retrouver. Moi, je vais essayer de retrouver un point central au milieu de ce charnier, et puis je dis que je suis là et retrouvez-moi là, quoi.
La zone des combis, c'est pas mal, en fait.
En fait, des combis, ouais, mais en fait, on sait pas où elle est. Alors que tu vois, si je me mets au milieu du truc, à partir de là, on peut se repérer, peut-être.
Oui. Dans notre, dans les combis et tout ça, on n'a pas des fusées de détresse ou des choses comme ça.
Si, c'est du matériel qui peut venir. Après, vous, donc c'est surtout Jonathan qui est sur cette zone-là au départ. Vous étiez sur deux zones séparées.
Moi, j'étais à part. Toi, dans un autre morceau du vaisseau, en fait.
C'est ça. Toi, Cyril était plus sur la zone, on va dire cœur de vaisseau. Et Jonathan était arrivé plutôt de la zone côté cargaison.
Ouais, d'accord. Non, mais vu qu'on avait tous les deux trouvé des combis, je pense.
Ouais, mais c'était pas au même endroit.
Il y avait des combis des deux côtés.
D'accord.
D'ailleurs, okay. Est-ce que j'ai d'autres survivants avec moi ?
Comment la cargaison s'il y a des combis de tous les côtés ?
Un peu partout.
D'accord.
Et est-ce que j'ai des survivants avec moi ? Les deux autres survivants, ils sont de mon côté ou ils sont du leur ?
T'as une personne qui semble inconsciente, pas très loin de toi.
Bah, du coup, je préviens Sally, j'ai un survivant. J'ai retrouvé. Bird, on va l'appeler Bird. J'ai retrouvé Bird, il a l'air plutôt amoché.
Indique ta position, je te rejoins.
35e de Lénor.
Je suis dans un morceau du vaisseau, j'ai rien de plus précis, désolé. Non,
avec nos comlinks, on n'a pas
de positionnement, non.
Je suis dans la partie fret. Si vous la voyez, là, je crois que c'est vous que je vois au loin, je dois être à 300 mètres de votre position à peu près.
C'est ça. Donc tu commences, alors je ne veux pas te donner des ordres, hein, mais tu commences à te diriger parce que tu sais quand même que tu commences à avoir un petit peu quand même beaucoup froid et que ce serait quand même super top de récupérer une combi.
Et j'ai des morceaux qui brûlent autour de moi, bah techniquement il fait bon.
Pareil pour toi Thierry.
Bon bah je commence à aller vers là. Hein.
Vous visualisez un petit peu plus précisément cette zone. Vous avez l'impression que le quai de chargement, en fait, ça finit par se détacher. Donc, vous avez l'impression que la rampe d'accès est ouverte et qu'il y a l'arrière, en fait, du vaisseau qui a été éventré et qui est encore positionné. Vous repérez le buggy qui a été éjecté un petit peu plus loin, qui est sur le côté.
Je vais aller le diagnostiquer pour voir s'il est fonctionnel. Faire un petit tour, l'allumer, voir le matériel, enfin, déjà voir si on a un moyen de transport, ça reste vital à mes yeux. Enfin, capitaine, si vous me le permettez.
Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. En plus, on pourra se déplacer plus facilement d'un débris à l'autre avec le. En termes de batterie pour ce truc-là, on considère que ça roule.
Alors, c'est une sorte de batterie électrique. C'est une proto-énergie et ça tient longtemps normalement.
D'accord.
Une semaine, je pense, d'autonomie à peu près.
Ok, donc on peut, oui.
Bah, du coup, si vous arrivez aussi, je vais confier Bird.
Batterie en bon état. Pardon.
Je vais confier le rescapé au médecin, puis je vais aller voir donc le buggy. Je vois si est-ce qu'il fonctionne.
Ok. Donc t'attends que le médecin arrive, il commence à s'équiper déjà pour éviter de mourir de froid. Et effectivement, la zone avec les divers petits feux fait que c'est moins, c'est pas aussi saisissant que ce que ça pourrait. Thierry, t'étais pas très très loin non plus. T'arrives quelques minutes après quand même. Et puis, Jonathan, du coup, tu vas te rapprocher du buggy. J'imagine que Cyril va aussi vouloir se regrouper un petit peu ou éventuellement chercher un autre survivant.
Ben, moi, j'étais parti chercher des clients, en fait, pour voir si les clients étaient toujours en vie. Donc, j'allais vers la zone où je les avais parqués.
Ok, ils n'étaient pas très loin de toi, normalement. Mmh. Effectivement, tu les retrouves de manière... Il y en a certains qui ont la tête qui est partie dans un angle un peu bizarre. Il y en a un qui se retrouve avec un truc qui lui a traversé le torse. Et il n'y a qu'une seule personne en fait qui a l'air encore, encore viable, on va dire, avec toi. C'est Jones. C'est le Marines qui était qui sert de service de sécu en fait. Et Jones, il s'est réveillé, il a l'air hagard. Il se tient les bras les uns contre les autres comme ça parce qu'il a l'air d'avoir froid quand même.
Donc quand j'ai trouvé ma combi, est-ce que j'en ai trouvé d'autres ou pas?
Oui, t'as trouvé 4 combis sans problème.
Donc je considère que j'en ai emmené 2, une pour chaque bras.
Ouais.
Et que j'en donne une à Jones.
Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est des choses qui sont taille unique et qui, grosso modo, s'adapte plutôt bien en morphologie. Jones est plutôt carré. Et merci, je mets ça, ouais. Ouais.
Laissons là les voix pour ce soir dans le froid de cette planète suite à ce crash. Et ils tentent de survivre et de trouver leurs compagnons qui sont éparpillés un petit peu partout. C'est le principe d'éparpiller. Je m'égare. Les voix étaient incarnées par Cyril, Thierry, Jonathan et Alice. Et c'était une partie d'Alien. Alien qui est un jeu publié par Arkane Asylum en version française. Un jeu qui est une gamme qui est plutôt suivie puisqu'il y a un livre de base, bien entendu, mais également un kit de démarrage qui est plutôt bien fourni. Une boîte qui contient tout le nécessaire pour pouvoir jouer pour un prix modique. Et puis il faut savoir que le jeu lui-même a une extension, une campagne. C'est une suite de scénarios, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les termes du jeu de rôle. Et cette suite de scénarios s'appelle sobrement le Destructeur de Monde. Autant vous dire que ça donne pas du tout envie de mourir des mains de ces sales bestioles. Quoi dire de plus, si ce n'est que les voix du scénario vont bientôt toucher à leur fin, il reste quelques dizaines de minutes. On pourra éventuellement faire d'autres chroniques, d'autres choses peut-être régulières sur la pratique du jeu de rôle et puis les thématiques d'un bon jeu de rôle, peut-être des parties d'écriture. On reprendra également les interviews à partir de la semaine prochaine. Il y aura peut-être d'autres parties, les suites de choses qui ont déjà été jouées. Je sais que les joueurs, les voix attendent au moins une suite avec impatience. Juste avant de partir, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous remets un morceau musical, mais dans sa version lo-fi, lo-fidélité, et j'avoue que j'aime bien ces petits moments de calme avant de pouvoir repartir. Bonne soirée à tous, et j'espère que cette émission vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénarium.
everything about you. There ain't nothing you can put me through that I wouldn't be willing to do. I love everything about you. I love the way you stand and command.
Like a child who needs to be heard. Brother can't go back, 'cause it won't be the same. Brother keeps playing his lonely game. Brother keeps playing his lonely game. Little man, go on, reach my hand. It will be the same way for us, same way. Little man, try the best you can. It will be the same way. For us. Don't let the system